demandé de me taire, de tout garder en dedans. L'émotion, à quoi ça sert? T'as plus qu'à serrer les dents. On m'a dit tu sais quoi faire, et puis t'es plus un enfant. C'est pour les filles, les manières, les mecs ça prend pas de gants. Moi.
Tous les soirs, Belle RTL vous offre toute la musique que vous aimez.
C'est l'heure du crime sur RTL.
Avec Jean-Alphonse Richard.
Âgés de 11 et 13 ans, au moment de leur disparition, Inès et Nawal étaient prises en charge par un institut spécialisé de jour. Rentrées chez leur mère pour les congés de fin d'année, elles ne sont jamais revenues dans cet établissement une fois les vacances terminées.
Bonjour, Naïma Bel-Alam ne manquait pas de mérite. Depuis une dizaine d'années, elle élevait seule ses filles, Inès, 12 ans, et Nawal, 13 ans. Deux enfants si lourdement handicapés qu'elles ne pouvaient ni marcher, ni parler, ni jouer toutes seules. La maman s'en occupait parfaitement jusqu'au printemps 2017 où Inès et Nawal ont disparu. Les regards des enquêteurs vont tout de suite se tourner vers la mère, une suspecte de premier plan. Elle accumule les mensonges, assure que ses filles sont vivantes, envoyées dans la famille, à l'étranger, ne cesse de répéter qu'elle ne les a pas tuées. Les juges d'instruction, les psychiatres vont s'interroger sur cette confession à laquelle personne ne croit. Que cherche donc à cacher cette femme désespérée qui luttait pour le bien-être de ses enfants, si ce n'est une indicible vérité? Comment la juger? Question posée aujourd'hui à nos invités. Inès et Nawal, les petites disparues de Nérac. J'ai confié les filles à une femme sur une aire d'autoroute en Espagne. J'ai conscience d'avoir commis une erreur. L'enquête de l'heure du crime, la seule émission radio 100% fait divers. À tout de suite sur RTL.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop. That my defenses drop. I know that I was born to kill. Any angel on my windowsill. But it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la 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 la. I know, la 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 la. Still I don't let go. And fields and flowers grow.
You blow.
RTL. L'heure du crime.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, la disparition de deux petites filles à Nérac dans le Lot-et-Garonne. Nawal et Inès, très lourdement handicapées, elles n'ont plus été vues depuis la Noël 2016. Double disparition signalée tardivement aux autorités. 5 mois se sont écoulés. Mercredi 3 mai 2017, le procureur d'Agen est alerté par la direction départementale de l'enfance et de la famille de l'absence de deux petites filles, deux sœurs, Inès, 12 ans, et Nawal, 13 ans, toutes deux présentées comme polyhandicapées depuis leur naissance, frappées par une encéphalite qui a entraîné une paraplégie. Elles ne marchent pas, ne parlent pas, doivent être surveillées en permanence. Enquête ouverte, les gendarmes constatent que cette disparition remonte en fait à 5 mois plus tôt. Les sœurs n'ont plus été vues à l'institut spécialisé de Tonneins qui les accueille en journée depuis le 7 décembre 2016. La directrice certifie qu'elle avait à l'époque appelé la maman, Naïma Belalam, qui travaille comme comptable. Elle préférait les garder à la maison. Par la suite, la maman a assuré que ses filles étaient chez des amis à Toulouse, puis au Maroc. Mardi 6 juin, les gendarmes sont à Nérac, devant le portail de la villa Araga, quai du Moulin, en bordure de la rivière La Gélise. Naïma Belalam est locataire du rez-de-chaussée. Elle refuse d'ouvrir car, dit-elle, le ménage n'est pas fait. 2 heures plus tard, les enquêteurs pénètrent enfin dans l'habitation. Le salon et la cuisine sont en désordre, mais la chambre des filles est propre, bien rangée. Les fauteuils médicaux sont là, du linge humide des enfants est étendu. La mère explique que fin 2016, elle était épuisée. Elle s'occupait toute seule d'Inès et de Nawal. Une clinique spécialisée de la région ne pouvait pas les accueillir. Elle les a donc emmenés au Maroc, pays dont elle est originaire. Elle les a confiés à une voisine, à Meknès, en qui elle a toute confiance. 5 juillet, la maman est à nouveau entendue. Cette fois, elle raconte qu'elle était en route pour le Maroc, sur une aire d'autoroute espagnole, quand elle a fait la connaissance d'une femme en camping-car. Celle-ci avait une petite fille handicapée. Elle lui a proposé d'emmener Inès et Nawal jusqu'au Maroc. Elle a accepté. Depuis, la maman n'a plus de nouvelles. Elle regrette. « Je n'ai rien dit car j'avais peur. J'ai conscience d'avoir commis une erreur. » Les gendarmes ne croient pas la maman. La géolocalisation de son téléphone indique qu'elle ne s'est pas déplacée en Espagne ou au Maroc. Les douanes confirment. L'ex-mari et père des filles a appelé la fameuse voisine qui les aurait hébergées au Maroc. Cette femme dément. Les enquêteurs remarquent que depuis la Noël 2016, la maman n'a plus acheté de couches ou de médicaments pour les filles. Les voisins de la maison de Nérac racontent que ces derniers mois, Naïma, si organisée, ne s'occupait plus de son jardin. Elle était comme recluse, indique une résidente. Son mari ajoute, ses filles, elle les portait toujours affectueusement dans ses bras. C'était comme des poupées de chiffon. En juillet, une information judiciaire pour délaissement de mineurs est ouverte. Et voilà donc une enquête judiciaire ouverte. On a perdu du temps parce que effectivement cette disparition, elle a été relevée tardivement, 5 mois après les faits, avec deux petites filles qui pourtant doivent attirer l'attention à cause de leur très lourd handicap. Elles sont incapables d'être autonomes, mais face à cette disparition, eh bien, on le voit tout de suite. Les explications de la maman, elles sont confuses et contradictoires. On va voir dans le chapitre suivant de l'heure du crime que d'autres découvertes inquiétantes vont être faites dans cette maison et vont sans doute la pointer du doigt, cette maman, comme une possible meurtrière. Bonjour Mathilde Curien.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes journaliste police justice pour le journal Sud-Ouest. Vous avez suivi toute cette affaire. On a lu l'équipe de l'heure du crime a lu évidemment vos articles. Alors, première question toute simple, Mathilde Curien. Pourquoi le signalement, il est si tardif? Je le disais, ces deux petites filles, elles sont très très gravement handicapées. On doit venir à leur aide très vite, leur porter secours le cas échéant.
Alors en fait, je pense que tout se tient, la situation vraiment très particulière de ces petites filles et de leur maman, donc, qui, comme vous l'avez dit, les élèves toutes seules. Et cette structure, en fait, elle accueille donc les deux petites filles en journée. Et cette maman, c'est la seule famille à avoir deux enfants polyhandicapés dans l'établissement. Donc c'est une prise en charge assez lourde. Et il se trouve que des fois, les filles étaient absentes une semaine, etc. Et puis Naïma Belalam, on le verra certainement par ailleurs, un caractère assez particulier.
Ouais.
Et je pense que la directrice de l'établissement tentait de conserver le lien. Elle l'avait régulièrement au téléphone et à chaque fois, Naïma lui disait effectivement qu'elles étaient en vacances ou chez des proches. Donc, je pense qu'elle lui laissait en fait le bénéfice du doute finalement. Oui. C'est un peu ça qui a retardé.
Alors, c'est un peu ça qui retarde, Mathilde Curien. Et évidemment, on écoute et on boit vos paroles d'ailleurs parce que effectivement, c'est le fil de l'histoire. Il commence comme ça, tout simplement parce que cette maman... Elle a vraiment rien d'une maman qui se préoccupe pas de ses filles. Tout au contraire, elle est très attentive, très sérieuse. Donc, on croit ce qu'elle raconte.
Oui, tout à fait. On lui fait confiance parce que elle est même très exigeante sur les soins qui sont apportés à ses filles. Elle fait même des fois des reproches parce qu'elle estime que c'est pas fait assez correctement ou de manière assez poussée. Elle a ce paradoxe finalement où elle veut le meilleur pour ses filles, puis de temps en temps elle les retire une semaine en disant que voilà, elle s'en occupe elle-même parce que ce sera mieux fait. Mais les fillettes réintégraient toujours l'établissement d'une manière ou d'une autre. Donc finalement la directrice l'avait souvent au téléphone, avait conservé ce lien et pensait que comme d'habitude les filles, même avec du retard, allaient revenir incessamment sous peu.
Oui, d'accord. Effectivement, ce qu'elle raconte cette maman, on la croit parce que jusqu'à présent, depuis plus d'une dizaine d'années, depuis qu'elle s'occupe de ses filles qui, encore une fois, souffrent beaucoup, elle a toujours été là. Elle était seule, il faut bien le préciser. Ça, c'est très important dans cette affaire. Elle est seule, seule avec ses filles en permanence dans cette petite maison qu'elle occupe près d'une rivière, un appartement qu'elle loue au rez-de-chaussée. Bonjour, maître Sylvie Brucio.
Oui, bonjour, monsieur.
Merci beaucoup d'être avec nous également au téléphone de l'heure du crime. Alors, vous êtes, vous, avocate au barreau d'Agen, et vous connaissez bien ce dossier puisque vous êtes l'avocate du père de Nawal et Inès, le père qui, à l'époque, n'est pas au foyer. Les parents sont séparés, donc il n'est pas directement mêlé à cette disparition, évidemment. Maître Sylvie Brucio, c'est délicat, hein, on l'a dit avec Mathilde Curien, c'est délicat d'accuser tout de suite cette mère qui est une mère courage comme ça, qui a montré sa détermination et sa volonté d'aider ses filles tout au long de leur petite vie, de leur début de vie. Elle certifie que ses enfants sont à l'abri, mais il faut tout vérifier.
Et en fait, si vous voulez, dans un premier temps, on part pas sur une disparition parce que, en fait, les enfants ne sont plus scolarisés à partir de décembre. Elle raconte tout le temps des histoires à l'éducatrice référente. C'est-à-dire qu'un coup, elle se repose à Toulouse, après, elle va au Maroc. Bon, et c'est qu'au mois de mars où l'éducatrice dit bon, maintenant, il faut que les enfants reviennent, que là, les réponses sont vagues. Mmh. Et l'éducatrice, en fait, à ce moment-là, fait un signalement enfant de danger en disant que cette mère-là est épuisée. Mmh. Mais personne ne pense qu'elle a pu faire du mal aux enfants.
Bien sûr.
Les gendarmes, quand ils vont voir, c'est pour ça qu'ils prennent un peu de temps, quand ils arrivent au mois de juin, ils vont voir comment ça se passe là-dedans. Mais on est sur une maman d'enfant handicapé... qui, à ce moment-là, est fatigué. Mmh. Et c'est qu'une fois qu'ils font la visite, qu'ils voient la tache de sang, l'odeur de cadavre,
oui.
C'est là où ça tite.
Alors
c'est là qu'ils commencent à s'inquiéter.
Oui, on va y venir, effectivement, à ces éléments qui sont très, très troublants qu'on retrouve dans cette maison. Encore une question, maître Sylvie Brucio. C'était plausible, cette thèse des enfants emmenés au Maroc?
C'est quelque chose d'impossible hein, que les enfants soient au Maroc. Bon, maintenant, elle dit qu'ils ne sont pas au Maroc. Mais c'était quelque chose d'impossible. Et elle-même, pendant les vacances au Maroc, les témoins ont pu expliquer que les enfants restaient enfermés. C'est compliqué, il n'y a pas de prise en charge là-bas. Mmh.
L'enquête s'accélère, la maman va se retrouver en prison. Inès et Nawal, les petites disparues de Nérac. Je me suis complètement refermé sur moi-même. Je ne me suis plus jamais reposé, ni physiquement, ni moralement. L'enquête de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL. We'll be right back. Consacré aujourd'hui aux petites disparues de Nérac. Deux sœurs, 12 et 13 ans, lourdement handicapées, dont on est sans nouvelles depuis la Noël 2016. La mère, une femme sérieuse, affectueuse, est soupçonnée de les avoir fait disparaître. Mercredi 20 septembre 2017, 4 mois après le signalement officiel de la disparition de ses filles, Naïma Belalam est placée en garde à vue. Les gendarmes perquisitionnent la maison. Le sapin de Noël, desséché, encore décoré, est toujours là. La mère répond qu'elle n'a plus envie de s'occuper de rien. Dans le coffre de la voiture, deux cadeaux de Noël portant chacun un prénom des disparus sont retrouvés. En garde à vue, Naïma Belalam finit par craquer. Elle explique que la charge de ses filles a fini par l'écraser. « Je me suis complètement refermé sur moi-même. Je ne me suis plus jamais reposé. » Ni physiquement, ni moralement, dit-elle. Elle répète qu'elle a laissé ses filles à une femme rencontrée sur une aire d'autoroute en Espagne. Son frère, interrogé, dit être passé chez elle au mois de janvier. Ses nièces, dit-il, étaient encore vivantes. Il les a entendues crier comme elles le font souvent. Mais Naïma a refusé de le laisser entrer. Elle m'a dit, qu'elle ne voulait plus voir personne, explique-t-il. La maman est mise en examen pour délaissement de mineurs et placée en détention provisoire. Dans les mois qui suivent, les gendarmes, à la recherche d'Inès et Nawal, multiplient les recherches. Dans la rivière qui passe devant la maison, dans une forêt de la région où la maman est venue en voiture pendant l'été, elle s'est arrêtée sur une coupe de bois. Pas de résultat. Dans la maison de Nérac, sont enfin découverts une tache sombre sur le parquet de la chambre des filles. 11 lattes sont découpées. Il s'agit bien de sang humain. Les profils ADN de la petite Inès et de sa sœur Nawal apparaissent. La maman promet de s'expliquer, mais pour le moment, elle ne dit rien. Car, explique-t-elle, elle ne veut pas faire de mal à sa propre famille. Elle répète qu'elle n'a pas tué ses filles. 12 janvier 2018, c'est désormais pour homicide volontaire que Naïma Belalam est poursuivie. Et la mère va être interrogée, réinterrogée, mais elle va rester sur ses positions. Elle répète qu'elle n'a pas abandonné ses enfants, qu'elle ne les a pas tués. Les interrogatoires vont revenir en boucle, inlassablement, avec cette maman qui est fatiguée, qui est en bout de course, qui n'a d'ailleurs pas la moindre réponse souvent à apporter. Les enquêteurs vont estimer que cette femme est dans le déni le plus absolu, vrai ou faux. Eh bien, on va le voir évidemment avec les auditions et notamment les auditions qu'elle, les interrogatoires que vont faire d'elle certains psychiatres. Alors, il faut revenir à ces auditions des proches, des gens qui connaissent la mère de famille. Mathilde Curien, on vous retrouve dans cette heure du crime. Vous êtes journaliste police justice pour le journal Sud-Ouest et vous connaissez parfaitement ce dossier. Vous l'avez suivi depuis le début. Alors, elle sombre. La maman, sans doute à la Noël 2016, parce que là les témoignages s'accélèrent, on dit que soudain elle n'est plus elle-même, c'est ça?
Oui, et puis je pense que le fait que la maison soit, semble figée à cette date, du moins à cette période, est effectivement une clé de ce dossier. L'Institut avait déjà noté que vers novembre 2016, les filles qui étaient habituellement très soignées commençaient à avoir quelques dégradations dans l'hygiène. Enfin, ils avaient remarqué des petites choses comme ça. Après, effectivement, c'est une période où on l'a sent sombrer. Effectivement, elle avait demandé un peu de répit pendant les vacances de Noël à une clinique spécialisée pour prendre en charge les filles. Elle avait essuyé un refus. Elle s'est fâchée avec son frère. Elle a coupé les ponts avec sa famille à ce moment-là. On voit qu'il y a un tournant, un basculement. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On voit que c'est vraiment à cette période qu'il y a un vrai changement dans sa vie.
Il y a une image, j'ai envie de dire, c'est juste une image, mais une image symbolique, Mathilde Curien, c'est ce sapin de Noël. Il y a encore les décorations, l'arbre il est tout flétri au fil des mois. Il n'a pas bougé. Là, oui, vous l'avez dit, hein, le temps s'est arrêté.
Et ça, c'est vrai que je pense que c'est une image assez marquante pour les enquêteurs qui pénètrent dans cette maison donc en septembre 2017. Ouais. On voit ce sapin de Noël, des cadeaux. On trouve également des cadeaux avec les noms des filles dans le coffre de sa voiture, de la nourriture périmée. Enfin, on a vraiment le sentiment qu'à partir de cette date, quelque chose s'est passé.
Maître Sylvie Brucio, vous êtes l'avocate du papa de Nawal et d'Inès dans cette histoire. Et vous êtes avec nous dans l'heure du crime. Vous êtes avocate au barreau d'Agen. Elle explique, cette maman, que finalement, elle est à bout, ça, personne va dire le contraire, on sent qu'elle est totalement épuisée par ce qui se passe.
C'est plus les médecins qui sont passés, les experts qui ont parlé de ça. Il y en a même un qui a dit que ce qu'elle faisait, c'était impossible. Parce que les enfants n'ont absolument aucune autonomie. Elles peuvent pas marcher, elles sont pas propres, elles parlent pas, elles mangent pas. Enfin, elles sont assistées dans tous les actes de la vie quotidienne. Et la maman les récupérait le soir, devait les préparer, les amener au bus tous les matins. C'était compliqué. Elle a pu dire à un moment donné que des fois, elle était tellement épuisée parce que c'est des enfants qui dorment pas obligatoirement la nuit. Le matin, elle était tellement épuisée qu'elle loupe le taxi et de ce fait, elle est encore plus épuisée parce qu'elle doit les garder la journée. Après, on voit les carences un peu du système de prise en charge, puisqu'on nous a expliqué qu'il n'y avait pas de prise en charge le soir possible, ou les vacances, dans le département. Alors qu'avant, il y avait ce système-là qui permet aux parents, s'ils sont épuisés, de souffler. Là, elle n'avait rien.
Mais ouais, elle n'avait rien, elle est toute seule, cette maman. Alors évidemment, ça n'excuse pas ce qu'elle a peut-être fait. On ne le sait pas, mais on va le voir par la suite, puisqu'elle sera jugée à un moment donné. Maître Brucio, il y a des campagnes de fouilles qui vont se poursuivre jusqu'en 2022, je crois, et notamment dans une forêt, parce qu'on l'a vu aller dans cette forêt, la maman.
En fait, dans les campagnes de fouilles, là, il y a les chiens qui sont un repère, mais là, maintenant, on est 8 ans après, donc il n'y aurait plus de corps. Donc les chiens, ils ne peuvent pas retrouver d'odeur.
Bien sûr.
Ils ont fait juste un périmètre, hein, parce qu'ils ne pouvaient pas. On peut pas. Vous vous rendez compte, il faudrait l'armée française, c'est la forêt des Landes. Hein, bon, c'est pas possible. Donc eux, ils ont fait un périmètre, mais même à l'intérieur de ce périmètre, c'était plusieurs années après. Si le corps est allé dans l'eau, les chiens n'auraient pas repéré. On nous a expliqué que si le corps avait pu être dispersé par des animaux, parce qu'on est quand même... Même là, en 2022, c'était quand même 6 ans après. Donc, même les fouilles ne sont plus très utiles à ce moment-là.
Enquête pas terminée. La maman va revenir dans la chambre des filles. Inès et Nawal, les petites disparues de Nérac. Je me suis séparé de mes filles dans leur propre intérêt. L'enquête de l'heure du crime. La maman accusée de double meurtre. Mais pourquoi la justice va-t-elle soudain douter? C'est à suivre dans un court instant sur RTL.
I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes, never stolen by nobody. And they flicker to the future for a moment I could picture. Then you touch me and I come back, and we're talking on the staircase about your big dreams on the big screens. Out of Georgia now, you're lonely in this city, lying with me, and you're scared it's moving quickly. Oh, now you're crying, you're in pieces, 'cause the only love you've ever known is Jesus. I can feel it. Oh, I hate that I'm the reason that you're in your head right now. While your world is spinning out, so slow it down. Take a moment now. We're too young to drown. Deep in dirty waters full of hopeless doubt. Let me pull you out. Let me hold you now. Let me slow it down.
Ain't it funny how it changes? How the future rearranges. I get nervous, oh I'm anxious. Maybe loving you is dangerous. I could lose you like the others. Only girl that's never left me is my mother. Oh, I love her, and I know you probably hate it, but I'm in my head right now.
Jean-Alphonse Richard.
C'est une maman qui est attentive, c'est une maman qui est affectueuse. Elle s'est toujours occupée de ses enfants et on peut la décrire comme une maman soucieuse du bien-être de ses filles.
Retour aujourd'hui dans l'heure du crime sur l'affaire des disparus de Nérac. Deux petites filles, 12 et 13 ans, polyhandicapées, introuvables depuis Noël 2016. Leur mère est soupçonnée de les avoir tuées. Elle nie. Après 4 ans de prison, la justice s'apprête à clore le dossier. Vendredi 28 mai 2021, Naïma Belalam est interrogée pour la dernière fois. La juge, qui espère des aveux, l'a emmenée jusqu'à la maison de Nérac. On lui montre dans la chambre la tache de sang qui imprégnait le parquet. Elle ne bronche pas. Elle explique mécaniquement que Nawal s'est blessé avec un jouet et qu'Inès se piquait souvent avec des échardes. Elle affirme ne jamais avoir menti, mais admet avoir parfois arrangé les faits en sa faveur. Je me suis séparé de mes filles dans leur propre intérêt, indique la suspecte. Ses avocats contestent les accusations d'homicide volontaire. Il n'y a pas de preuves formelles. Après plus de 4 ans de détention provisoire, la justice hésite et doute. La maman est libérée. Les psychiatres qui ont examiné Naïma Belalam ne notent chez elle aucun trouble psychique. Roland Coutenceau souligne que son discernement a peut-être été altéré au moment des faits. L'expert parle d'asthénie, une grande fatigue et d'un accès de dépression. Un deuxième expert présente une femme qui fait tout pour éviter de parler de la disparition de ses filles. Une troisième psy évoque l'immense blessure du handicap des enfants. La mère serait dans le déni. Elle n'affiche aucune tristesse car elle aurait fait ce qu'il fallait pour Inès et Nawal, à savoir les cacher. Cacher ses filles et les mettre en sécurité. Mathilde Curien, vous êtes avec nous dans cette heure du crime, journaliste police-justice pour le journal Sud-Ouest. C'est vous qui avez suivi cette affaire pour ce grand quotidien du Sud-Ouest. Alors, il y a plus de 4 ans de détention provisoire, c'est très long. Comment expliquer c'est vraiment cette détention qui est interminable? Il y avait beaucoup de vérifications à faire?
Oui, je pense que c'était aussi un moyen pour la justice d'espérer qu'elle puisse craquer, qu'elle puisse. C'était un moyen de pression, j'imagine, de dire mais voilà, tant que vous ne révélez pas quelques éléments, on peut pas vous libérer. Et puis en plus, ça aurait pu, dans le cas où il y aurait eu d'éventuelles complicités, voilà, fragiliser l'enquête. Donc ils ont essayé quand même de. Je dirais de la garder vraiment pour pouvoir l'interroger, etc. Mais rien n'en est sorti concrètement.
Et c'était dans l'espoir, effectivement, qu'elle ajoute quelque chose, qu'elle avance un petit peu. Elle a d'ailleurs avancé un petit peu dans cette maison devant la juge, mais c'est pas allé très loin, on vient de le voir. Bonjour Roland Coutenceau.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous au téléphone de l'heure du crime. Vous venez de nous rejoindre dans cette émission et on vous en remercie. Vous êtes expert psychiatre auprès des tribunaux et ce dossier, évidemment, vous le connaissez bien puisque vous avez expertisé cette maman. Alors, vous et puis vos confrères, vos collègues, vous pensez que cette maman, elle est dans le déni, elle peut pas dire quelque chose qui est finalement indicible. C'est trop énorme de raconter quoi que ce soit sur cette disparition.
Mais écoutez, à type d'hypothèse, moi je résumerai cette histoire de la façon suivante. C'est une femme, vous l'avez peut-être dit d'ailleurs, qui a une intelligence tout à fait normale, même dans la bonne moyenne, dans la moyenne forte, qui a une personnalité un peu affirmée, je vais la décrire un peu plus complètement si vous le souhaitez, mais au fond, quelle est sa situation? Elle a des enfants qui ont des problèmes, qui l'une souffre d'encéphalopathie, elle décrit aussi, c'est très important, un contexte où finalement on la laisse un peu seule pour se débrouiller. Vous voyez, il y a une solitude face à des enfants handicapés. On comprend un petit peu ce contexte. Et puis, bien sûr, la justice la soupçonne. On ne trouve pas la trace de ses enfants. Et elle choisit de se positionner en disant qu'elle les a laissés ailleurs. Alors, au fond, en étant simple... bien sûr, personne n'a retrouvé, je parle sous votre contrôle, j'ai pas suivi l'affaire après, n'a retrouvé ses enfants.
Hein, non, on les a pas retrouvés.
Et donc, finalement, d'une certaine manière, elle sans doute, elle le sait. Bon, c'est ce que pense le juge.
Oui, mais Roland Coutenceau, elle a besoin de dire qu'elle les met en sécurité, ses enfants. On sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais elle a besoin de dire, ils sont en sécurité, ils ne risquent rien, ils continuent à grandir.
Oui, mais ça, c'est allégué. Bon, donc, je finis juste mon hypothèse.
Allez-y.
Que, sans doute, l'hypothèse, on va en formuler une quand même.
Allez-y.
C'est une maman intelligente, épuisée, fatiguée. Vous avez vu que j'ai souligné ce
tout
contexte dépressif, dépressif, même qui voit altération de discernement, qui peut être à bout, a fait ou a eu deux gestes, hypothèses, qui ont donné la mort à ses enfants. Hein, donc, et puis, bien sûr, après, elle les a cachés. Donc, c'est l'hypothèse criminologique la plus vraisemblable. Et ensuite, finalement, pourquoi elle se positionne comme ça? Parce qu'au fond, elle refuse, peut-être humainement, peut-être à ses propres yeux, mais je crois que c'est lucide, de laisser entendre qu'elle a pu faire le petit geste qui fait que, à bout, elle les a supprimés. Et on peut comprendre un petit peu cette difficulté d'assumer un peu ce geste. On le voit d'ailleurs, vous l'avez peut-être dit, dans beaucoup de situations de mamans qui ont du cœur, qui s'occupaient pendant longtemps des enfants. Et puis, il s'est passé un petit geste qui fait que l'enfant est mort. On comprend qu'on n'ait pas envie de l'assumer, d'accepter, de le, le présenter autrement. Simplement, ici, elle a bétonné durablement et définitivement pour empêcher qu'on trouve les enfants, sans doute, et qu'on puisse objectiver peut-être le petit geste qui a été sa participation à leur mort. Voilà mon hypothèse criminologique, bien sûr.
6 ans après le début de l'enquête, la mère va comparaître aux assises. Inès et Nawal, les petites disparues de Nérac. Tu sais, maman, je ne veux pas te faire souffrir. C'est pour ça que je garde tout ça au fond de moi. Les filles, elles sont en sécurité. L'enquête de l'heure du crime. On se retrouve dans un instant sur RTL. Programme aujourd'hui de l'heure du crime, la disparition Noël 2016 à Nérac d'Inès et Nawal, deux petites filles polyhandicapées jamais retrouvées. Leur mère, à bout de force, aurait mis fin à leur jour, elle a toujours nié. Après 6 ans d'enquête, elle est jugée. Lundi 17 juin 2024, Naïma Belalam, 56 ans, est devant la cour d'assises du Lot-et-Garonne à Agen. Elle s'exprime posément. « Je n'ai pas tué mes filles. C'est horrible, un infanticide », dit-elle. Elle se dit complètement outrée des accusations portées contre elle. « Je n'accepte pas. Mes enfants sont vivantes. Aujourd'hui, je ne suis qu'une maman qui attend de revoir ses filles. » Elle raconte son quotidien avec Inès et Nawal. « J'ai du mal à parler de ça. Ça fait partie de mon intimité. » On n'est pas que maman quand on a des enfants avec un handicap. On est aussi infirmière, nounou, éducatrice. Les habiller, ça prend 1h30, dit-elle. Elle ajoute, quand elles n'ont plus été là, je suis restée amorphe. Je n'avais plus de force mentale. La nuit, je m'abrutissais devant la télé ou l'ordinateur. Les deux ex-maris de Naïma Belalam la décrivent comme une femme qui n'a jamais été violente avec les filles. La directrice adjointe de l'Institut de Tonnens reconnaît qu'elle a tardé à signaler la disparition car elle connaissait bien la maman. Je voyais qu'elle était aimante, elle avait des gestes affectueux envers ses enfants. À sa mère, en pleurs, qui la supplie de dire la vérité, Naïma Belalam répond « Tu sais, je ne veux pas te faire souffrir, c'est pour ça que je garde tout ça au fond de moi. Les filles, elles sont en sécurité. » Elle affirme qu'elles sont désormais majeures, elles sont belles. Inès se déplace toute seule sur son fauteuil roulant. Nawal a moins évolué à cause de son AVC. Un médecin explique que si les disparus n'ont pas reçu leur traitement durant toutes ces années, elles ne sont certainement plus en vie. Après 3 jours d'audience, Naïma Belalam est condamnée à 14 ans de prison pour infanticide. Mathilde Curien, on vous retrouve dans cette heure du crime, journaliste police-justice pour Sud-Ouest. Vous avez suivi toute cette affaire et vous étiez à ce procès. Alors racontez-nous, comment est-ce qu'elle se présente, Naïma Belalam? Déjà, quelle attitude elle a devant les jurés et les magistrats?
Alors Naïma Belalam, c'est une personne qui a un caractère assez déroutant. Elle a un caractère assez fort. Et je dirais que déjà, elle ne supporte pas les accusations qui sont portées contre elle. Pour elle, c'est inadmissible que l'on puisse envisager, ne serait-ce qu'une seconde, qu'elle ait pu faire du mal à ses filles. Et on la sent très remontée, finalement, contre le système judiciaire, d'une part, l'État en général et les défaillances qui peuvent accompagner les personnes en situation de handicap. On la sent très sur la défensive et même des fois totalement pugnace, c'est-à-dire qu'elle laisse entendre quand on la met face à ses contradictions qu'elle a fait exprès de brouiller les pistes, qu'elle a baladé les enquêteurs et elle dira même à un moment, ce sont ses mots, qu'elle fait ça pour emmerder la justice, elle le dit clairement. Donc elle est très, et en même temps on sent toute la détresse de cette mère qui refuse devant des inconnus comme elle les appelle, de détailler trop le quotidien avec ses filles qu'elle veut garder dans le domaine de l'intime.
Alors c'est ça, elle répète souvent, ça c'est mon intimité, elle est cette espèce de pudeur exacerbée qu'elle montre, Naïma Belalam. Roland Coutenceau, vous êtes avec nous dans cette heure du crime, et encore merci d'être ici. Expert psychiatre auprès des tribunaux, vous avez examiné Naïma Belalam, vous avez parlé avec elle. Il y a quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est qu'elle s'adresse à sa mère lors du procès, elle dit « Tu sais, je veux pas te faire souffrir ». C'est comme si elle avait pas envie de raconter son histoire, qui est peut-être tragique, devant ses proches, de peur peut-être d'avoir à rendre des comptes, c'est ça, Roland Coutenceau ?
Mais oui, il faut toujours, quand quelqu'un nie des faits dont on pourrait l'accuser, se mettre un peu dans sa peau. Il y a certains actes qu'on a fait à un moment donné, peut-être épuisés, sous pression, sur l'inspiration du moment, et puis que finalement, on ne peut pas assumer. Alors, dans l'esprit de votre question, par rapport à soi-même, mais surtout, qu'est-ce que j'ai observé dans ma longue pratique, c'est que, qu'est-ce qui est le plus sensible pour les êtres humains? Ce que pourraient penser leurs proches.
C'est ça, les parents, aiment, etc.
Le regard, qu'est-ce que ma mère pourrait penser de ça si je reconnaissais ça? Et donc, cet élément est dans sa simplicité, et ce qui souvent fait que les gens bétonnent même jusqu'à l'absurde, parce qu'au fond, pour eux, ce qui montre quand même que ce qu'ils ont fait, ça les touche.
Bien sûr.
Ils peuvent pas. Vous voyez, c'est près. Ici, c'est pas un crime. Ce que je voudrais profiter de, c'est pas un crime. Il n'y a pas d'intérêt. Vous voyez, on est dans une logique affective. Si elle les a tués, c'est peut-être par épuisement, parce qu'elle en pouvait plus. Voilà. Donc il y a quelque chose d'humain, même si la justice des hommes est fondée à dire tu ne tueras point. Et donc, mais après, c'est impossible à accepter, à assumer à ses propres yeux.
Oui, c'est ça.
Et aussi aux yeux de, elle a des relation assez positive quand même avec ses parents. Son père, elle décrit comme strict, mais elle aimait bien, la mère aussi. Donc il y a une force quand même du rapport dans le regard des parents.
C'est une famille effectivement qui est unie. Elle en parle. Hein. Elle effectivement, elle est en contact avec ses frères, etc. Même si elle s'est fâchée à un moment donné. Maître Sylvie Brisseau, vous êtes vous l'avocate du papa de Nawal et d'Inès, et vous êtes à ce procès. Comment vous expliquez ce verdict, 14 ans condamnation, 14 ans de prison pour infanticide?
Bien, écoutez, le procureur qui, malgré le déni de la mère, a pris en compte l'épuisement dans lequel elle devait être. Par le fait qu'elle se retrouvait toute seule, avec, mais très très isolée, parce que tout le monde est parti, hein, même sa famille. Donc elle se retrouvait... Après, elle s'isolait elle-même, hein, en ne demandant pas de l'aide. Le papa, c'est elle qui l'a écartée, et du coup, elle se retrouve seule. Mmh. Et elle est faite de telle façon qu'elle ne demande pas d'aide.
Un verdict qu'elle n'accepte pas, la maman fait appel. Inès et Nawal, les petites disparues de Nérac. Je veux croire qu'elles sont vivantes, mais j'espérais tellement qu'elles nous diraient où elles sont. L'enquête de l'heure du crime, je vous retrouve tout de suite sur RTL.
Jean-Alphonse Richard.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, la disparition à Nérac, fin 2016, d'Inès et Nawal, 12 et 13 ans. Petite fille, polie, handicapée, jamais retrouvée. Juin 2024, leur mère a écopé de 14 ans de prison pour infanticide. Elle affirme que ses enfants sont vivantes. Elle fait appel. Mardi 2 juillet 2024, maître Sophie Grolot et Patrick Lamarck indiquent que leur cliente Naïma Belalam fait appel du verdict de la cour d'assises du Lot-et-Garonne. La difficulté, c'est que les jurés doivent se fonder sur leur intime conviction. Il n'y a pas de pièce à conviction, fait remarquer maître Lamarck. Annie Gourgues, présidente de l'association La Mouette, partie civile, avait indiqué au procès d'Agen « Je veux croire surtout que ces enfants sont vivantes, mais j'espérais tellement qu'elle nous dirait où elles sont. »
Là, il faut trouver ces deux petites filles. savoir comment ça s'est passé et leur donner une demeure décente pour l'éternité si jamais elles sont mortes.
La voix d'Annie Gourgue, que l'on salue d'ailleurs, présidente de l'association La Mouette, c'était sur France 3 Aquitaine en février 2022. Annie Gourgue et cette association La Mouette, ben, il faut souligner leur travail, parce que avec ces histoires d'infanticide, ces histoires de disparition d'enfants, eh bien ces bénévoles, ils sont là et ils soutiennent les familles et il faut leur tirer notre chapeau. Est-ce que, Mathilde Curien, est-ce qu'il y a une chance que lors de ce, selon vous, lors de ce procès en appel, elles disent autre chose que ce qu'elle a dit jusqu'à aujourd'hui, cette mère de famille?
Non, très honnêtement, je ne pense pas. Déjà, il y avait peu d'espoir qu'il y ait un basculement lors du procès de première instance, mais je pense que finalement, son récit, même si elle peut l'adapter un peu à la marge, je pense que finalement, elle est la seule à détenir la vérité et que c'est finalement tout ce qui lui reste comme lien avec ses filles. Et je pense que c'est vraiment cette relation unique qu'elles avaient toutes les trois, qu'elles veulent précieusement garder dans le domaine de l'intime et qu'elles ne révélera certainement pas devant des étrangers. Ça, c'est ma conviction profonde.
Roland Coutenceau, vous êtes avec nous, expert psychiatre auprès des tribunaux. Vous avez parlé, évidemment, avec cette maman. C'est très intéressant ce que dit Mathilde Curien, parce qu'effectivement, en disant qu'elle n'a pas tué, qu'elle n'a pas fait disparaître ses filles, elle garde le lien, même si c'est un lien imaginaire, peut-être, mais elle garde ce lien avec ses enfants.
Oui, en même temps, vous avez vu comment elle veut présenter les choses. Elles sont toujours vivantes, elles ont grandi, etc. Donc, c'est une image idéalisée de ce qu'elle aurait rêvé. Bon, bien évidemment. Mais regardez, moi, je voudrais, pour conclure en ce qui me concerne, dire qu'il y a un aspect étonnant dans ce dossier, c'est la force avec laquelle Naïma Belhamen fait le bras de fer avec la justice, qui veut absolument lui faire dire bon, où elles sont, on a compris que vous les avez peut-être tuées, alors, etc. Et bon, ça c'est le côté où elle est même étonnamment tonique. Bon, ma présomption d'innocence, moi j'ai rencontré quelqu'un à la limite de pas accepter l'expertise, de critiquer un peu. Vous voyez ce bras de fer. Et puis il y a un niveau plus humain que peut-être pourrait, je vais le mettre entre guillemets, puncher son propre avocat, dire à cette femme, mais finalement, on peut imaginer dans la situation dans laquelle vous étiez, étiez plus toute seule, vous arriviez plus, vous en pouviez plus, et peut-être finalement vous avez voulu, d'ailleurs, regardez cette image qu'on donne souvent certaines mères qui sont quand même affectives, vous voyez, elle n'est pas décrite comme une mauvaise mère, c'est pas une mère maltraitante, si elle les avait tuées, tout autant qu'elles étaient vivantes, elle s'en est occupée, et donc, d'une certaine manière, il y a cette image, je les ai envoyées au ciel et de lui dire finalement on peut vous comprendre, on peut vous comprendre, d'avoir un échange.
Bien sûr.
Dernier élément, je voulais dire, mais c'est propre, j'ai vécu aux États-Unis quand j'étais jeune, et donc elle est quand même, il y a quand même de temps en temps, j'envie un peu, je sais qu'en France c'est pas la sensibilité, ces procureurs américains qui peuvent un peu troquer, dites-nous où ils sont et après on va baisser la peine. Ce réel, bon là maintenant elle a un premier vision d'avoir 14 ans de prison. Mais quand cet élément de réalité, indépendamment des éléments émotionnels, est aussi un élément, des fois, pour faire craquer ou dire la vérité, êtres humains, de montrer qu'on leur comprend, et puis la peine, vous avez vu, elle n'est pas excessive, il y a l'altération de discernement qu'on avait proposé en tant qu'expert, le procureur a montré qu'il pouvait comprendre un peu ce qu'elle disait, mais voilà, le défi aussi, est-ce qu'on pourrait, la société, pour avoir plusieurs éléments de compréhension, peut-être de négociation autour de la peine, pour lui faire dire la vérité, voilà un petit peu le questionnement en tout cas.
Oui, c'est effectivement, je suis très d'accord avec vous, Roland Coutenceau. Je pense qu'effectivement, dans ce genre de cas qui sont très compliqués à régler, il pourrait y avoir une espèce de deal, comme on dit aux États-Unis, un arrangement. Bon, voilà, on verra ce que va donner d'ailleurs ce procès en appel. Mathilde Curien, encore une question, et je vais terminer sans doute cette émission avec vous. C'est une histoire qui, dans tous les cas de figure, on en pense ce qu'on veut pour l'instant. On ne sait pas où sont les enfants, elle a été condamnée. Cette maman, ça illustre la fatigue, le désespoir qui envahit ces familles qui ont des enfants handicapés. Ça, c'est une réalité et elle en parle assez bien, cette maman.
Mais on a envie de mettre aussi peut-être l'État sur le banc des accusés, finalement. Parce qu'on peut voir qu'il y a eu des défaillances. Là, la raison de Naïma Belhalam, à beaucoup de niveaux, il y a eu des défaillances. Et pour rebondir sur ce que vient de dire le docteur Coutenceau, depuis le premier jour de son procès, on lui a dit, Madame Belhalam, si vous apportez la preuve que vos filles sont vivantes, vous sortez, on arrête tout.
Ben oui, c'est ça.
Et on les recherche avec la certitude qu'on ne les recherchera pas, parce que sa crainte, c'est justement qu'elle soit placée en institution.
Oui, c'est ça.
Elle a refusé d'apporter une preuve de vie.
Merci infiniment pour vos éclairages, Mathilde Curien, Roland Coutenceau et maître Sylvie Brucio. Vous étiez les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, rédactrice en chef Justine Vigneault, préparation Marie Bossard, Lisa Canales. Réalisation en direct, Nicolas Godet.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et l'heure du crime.
If the night turned cold and the stars looked down, and you'd hug yourself on the cold, cold ground, you wake the morning in a stranger's coat. No one would you see. You ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. When your belly's empty and the hunger's so real, you're too proud to beg and too dumb to steal. You search the city for your only friend, but no one will you see. You ask yourself, who'd watch for me? A solitary voice to speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. You're not the easiest person I ever got to know. It was hard for us both, let our feelings show. Some would say, I should let you go your way, you only make me cry. Well, if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. Probably me.
I hate to say it. It's probably